Alors franchement, le monde vu de Washington, il est simple. Il y a les bons, c'est ceux qui obéissent aux États-Unis, et il y a les mauvais, c'est tous les autres.
Il va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger. Pour ça, nous devons unir le reste du monde libre.
En fait, nous savons depuis Batman que c'est pas si facile que ça. Parce que, pensez-y, Batman, soi-disant, il sauve le monde, il sauve Gotham des méchants. Mais en fait, est-ce qu'il fait autre chose, lui, hein, le milliardaire Bruce Wayne, que de protéger l'ordre établi où il y a plein de pauvres, plein de gens qui s'en sortent pas, et où Batman, en fait, Bruce Wayne, ben, il garantit le pouvoir des milliardaires sur Gotham. Ou pensons à Disney, là, Belle et la Bête. La morale de l'histoire qu'on nous enseigne, c'est que la bête, finalement, ben, elle est bien, elle est gentille, mais on nous dit pas qu'en fait, ben, la bête a séquestré Belle dans ce château, hein. Ce qui est un crime. Au niveau international, les choses sont pas si faciles non plus. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes obligés de suivre, de recevoir, d'accepter les ordres de Washington, ou y a-t-il des alternatives? Peut-on s'opposer, se présenter différemment dans ce monde que nous connaissons? Creusons cela ensemble.
L'instant piment avec Marc Botenga.
Bonjour et bienvenue au troisième épisode de l'Instant Piment où nous jetons un regard à contre-courant, pimenté, sur l'actualité internationale. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui m'intrigue depuis le début de cette terrible guerre en Ukraine. Quand on écoute Biden, on voit que ses visées vont bien plus loin que la défense de l'Ukraine. Écoutons-le.
Je pense vraiment que nous sommes à un point de basculement dans l'histoire. Les choses changent très vite. On va voir de plus en plus de confrontations entre démocratie et autocratie. J'en suis convaincu.
Moi, ça me rappelle quelque chose, quelqu'un, il y a quelques années.
Toutes les nations, dans toutes les régions du monde, doivent maintenant choisir. Vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes.
C'est le président Bush qui, lui, a voulu diviser le monde en deux blocs. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. En fait, Biden rentre un peu dans ce jeu-là aussi. Un monde de deux blocs qui s'affrontent. Et l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre aussi, un français, Dominique de Villepin, lui, il nous dit qu'en fait, ça, c'est une vision très, très dangereuse.
Nécessité de gagner la paix. Et pour gagner la paix, il ne faut pas aller jusque-là, jusqu'à ces objectifs idéologiques et politiques, parce qu'ils nous entraînent dans un monde sur lequel nous n'avons pas de prise. Et ce monde, c'est un monde divisé. On le voit avec la confrontation États-Unis-Chine. On le voit avec l'opposition entre les intérêts de l'Ouest et du reste du monde. On le voit entre le clivage pays autoritaire, démocratie libérale. Si nous cédons à la tentation de diviser le monde, les conséquences économiques sur la mondialisation, les conséquences politiques, les conséquences idéologiques font que, eh bien, notre voix perdra de la légitimité, perdra de la compréhension dans beaucoup de régions du monde. Dans la nouvelle guerre froide qui se dessine, nous n'avons pas du tout les règles qui existaient lors de la première guerre froide. Et nous sommes donc dans un monde beaucoup plus dangereux qu'avant. Nous n'avons plus de grands accords de maîtrise des armements. On l'a vu, à part l'accord New Start, l'accord sur les forces intermédiaires, par exemple, tout cela a sauté de la responsabilité à la fois des Américains et des Russes. Il faut donc prendre en compte ce monde encore plus dangereux. Ne l'oublions pas, c'est l'Europe le champ de bataille. Donc de ce point de vue-là, nous sommes tous concernés.
Pour créer ce monde de blocs, évidemment, les États-Unis nous poussent à nous détacher de plus en plus d'autres pays, et pas seulement de la Russie, mais aussi de la Chine. Les deux pays, entre-temps, sont définis par l'OTAN, mais aussi déjà par l'Union européenne, comme rivaux systémiques. Un rival systémique, c'est évidemment pas quelqu'un avec qui on veut avoir des relations, même économiques, même commerciales, très étroites. Et en même temps, il nous pousse à dépenser toujours plus en matière de défense. Il y a eu la décision et la pression de dédier au moins 2% du PIB, donc 2% de la richesse produite dans notre pays, à la défense, au budget de la défense. En Belgique, ça veut dire au moins 5 milliards de plus, encore une fois, par an. Par conséquent, c'est évidemment de l'argent qui ne sera pas dépensé pour le climat, pour les pensions, pour l'école, les hôpitaux. En fait, il nous pousse dans une nouvelle course aux armements, une nouvelle guerre froide qui sera payée par les gens. D'ailleurs, quand on regarde un peu le monde, on voit qu'il y a pas mal de pays qui ne suivent pas si aveuglément les États-Unis. Petit retour en arrière. Au début de l'invasion russe de l'Ukraine, session extraordinaire des Nations Unies. Les pays se réunissent pour discuter de la crise. Il y a une résolution qui est adoptée, qui condamne cette guerre et qui est approuvée à une large majorité avec environ 141 pays qui votent en faveur. Il y en a 5 qui votent contre, mais il y en a aussi 35 qui s'abstiennent. Parmi ces 35, de très grands pays, des pays très importants comme l'Inde, hein, la Chine, pas mal de pays africains comme l'Afrique du Sud notamment. Ce n'est pas que ces pays soutiennent la guerre, mais ils ne veulent pas être enfermés dans un camp ou dans une approche occidentale ou dirigée par les États-Unis. Et cette différence entre, disons, l'approche américaine-européenne de la guerre et celle de d'autres pays dans le Sud va devenir encore plus claire au moment des sanctions. Les États-Unis et l'Union européenne vont prendre des sanctions très fortes contre la Russie, mais pas mal de pays, la majorité des pays en fait dans le monde, ne vont pas suivre, ne vont pas appliquer ces sanctions. Même l'Égypte, va refuser de bloquer le canal de Suez. Ils ne vont même pas remettre le bateau, là, le navire Ever Given qui bloquait. Non. Pourquoi ? Ce n'est pas, encore une fois, qu'ils veulent soutenir la guerre. Mais d'une part, ils voient que cette escalade de guerre, sanctions, contre-sanctions, ben, ça fait beaucoup de mal aux économies de leur pays. Donc ils voudraient un cessez-le-feu, la paix le plus vite possible. Ils se disent aussi, ben, en restant un peu à distance, en refusant de rentrer dans un camp, ben on va peut-être pouvoir faciliter des négociations, des solutions diplomatiques entre les différentes parties. Et donc le New York Times voit émerger ce qu'ils appellent une nouvelle alliance de pays non alignés qui ne rentrent pas dans un ou dans un autre bloc. Et donc c'est des pays très différents, hein, avec des systèmes politiques, économiques très très différents. Par exemple, bah, y a l'Indonésie et le Mexique. Le Mexique est un pays voisin des États-Unis même. Y a la Thaïlande et l'Ouganda. Il y a Cuba et la Tanzanie. C'est des pays qui, en soi, ne partagent pas grand-chose, mais qui tous refusent cette logique-là. Pourquoi ? En fait, le premier ministre du Singapour, Lee Hsien Loong, a expliqué que, selon lui, cette division du monde n'est pas dans l'intérêt des pays du Sud.
Si vous présentez cela comme des démocraties contre des autocraties, vous vous préparez à une guerre sans fin du bien contre le mal. Et je ne pense pas que ce soit une décision sage à prendre. Mais même de nombreux alliés de l'Occident entretiennent des relations importantes avec la Chine, des liens commerciaux et autres. Je pense donc que c'est une meilleure configuration que celle où vous avez des pays divisés le long d'une ligne et où nous avons un bloc face à un autre groupe.
Ce changement, ce refus de la logique des blocs, ça a aussi à voir avec l'affaiblissement un peu des États-Unis mondialement, économiquement. Vous savez que par exemple dans les années 70, il y avait le dollar, le pétrodollar, qui était en fait la monnaie de référence au niveau mondial, notamment pour le commerce du pétrole. Une matière première stratégique, ben, ça se faisait en dollars. Et donc ça donnait une puissance, une influence énorme, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau du commerce global, il y a d'autres monnaies qui émergent, comme le yuan chinois. Et d'ailleurs, cette évolution avec différents pôles, mais ça donne aussi des opportunités à certains pays. Pensez à l'Afrique. Vous savez que la Chine et une série d'entreprises privées chinoises investissent toujours plus en Afrique. Maintenant, pour un pays africain, c'est aussi une opportunité parce qu'il a un choix. Hein, quand il veut des investissements, ce pays peut choisir. Il n'est plus obligé de regarder uniquement le Nord, Washington ou Paris, Bruxelles, mais il peut aussi regarder l'Est, Pékin par exemple, et peut-être même jouer les deux, hein, l'un contre l'autre, en disant voilà, c'est qui m'offre le meilleur deal. Hein, ça peut être une opportunité. C'est pas tout à fait nouveau. Hein. Lors de la guerre froide, donc deuxième moitié du XXe siècle, il y avait un mouvement de pays non alignés où l'Inde a joué un rôle important, l'Égypte, l'Indonésie, Cuba, des pays qui ne choisissaient pas le camp, disons, capitaliste dirigé par les Américains, ou pas non plus le camp qui se disait socialiste hein, dirigé par l'Union soviétique. Et alors, à un moment où il y a de plus en plus de pays qui affirment leur liberté, leur indépendance, leur autonomie, pourquoi est-ce que nous, on doit forcément se mettre à la remorque de Washington et des États-Unis ? Alors, être non aligné, moi je pense que c'est peut-être une bonne option pour l'Europe aussi. Attendez, être non aligné, ça ne veut pas dire que vous isolez, que vous allez pleurer dans votre coin. Non, hein, c'est pas ça. Être non aligné, ça veut tout simplement dire que vous ne vous alignez pas sur les positions d'autres pays, que vous développez, vous choisissez votre propre voie dans le monde. Et je trouve que c'est important. Faites gaffe. Hein. Avec ça, je ne dis pas que je n'aime pas les gens aux États-Unis, que je n'aime pas les travailleurs aux États-Unis, que je suis anti-américain. Non. Regardons, je sais pas, Ariana Grande ou Cardi B. Déjà, des chanteuses de force, de qualité. Mais en plus, elles prennent des positions assez impressionnantes en faveur de la justice sociale. Ou Chris Smalls, vous vous rappelez ? C'est le gars, le travailleur d'Amazon, qui a obligé par l'organisation, par la mobilisation, Amazon d'accepter un syndicat, première fois aux États-Unis. Attendez, c'est un gars que j'admire à fond. Donc, j'ai rien contre les travailleurs, les gens aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit suivre dans une alliance militaire comme l'OTAN tout ce que dit le gouvernement américain au service de ces multinationales. Nous avons d'autres intérêts. Entre leur gouvernement des multinationales et les travailleurs européens, c'est pas la même chose. Regardez l'Irak, par exemple, la guerre d'Irak, il y a 20 ans environ. Les États-Unis envahissent, détruisent ce pays pour leur multinationale, parce qu'ils voulaient le pétrole irakien. C'est pas dans notre intérêt, parce qu'après, il y a quoi ? Il y a ISIS, hein, l'État islamique, etc., qui sont venus de ça. Franchement, c'était même contre les intérêts des travailleurs en Europe. Ou pensez à l'Ukraine, hein, dans l'épisode 2 de l'Instant Piment, j'expliquais comment Hillary Clinton, hein, ex-ministre des Affaires étrangères, elle comparait l'Ukraine à l'Afghanistan dans l'idée de peut-être faire durer la guerre pour affaiblir la Russie. Oh les gars, cette guerre se trouve sur le territoire européen. Nous, notre intérêt, c'est pas de la faire durer, c'est d'avoir la paix, un cessez-le-feu. Ces sanctions nous font du mal, beaucoup moins ou quasi pas aux États-Unis. Donc encore une fois, on partage pas les mêmes intérêts. Ou regardez l'OTAN, donc cette alliance militaire dont on fait partie avec les États-Unis. Non mais sincèrement, vous avez vu, eux ils veulent en faire Global NATO, un OTAN global qui doit aller faire la guerre, envoyer des navires, des guerres, même en mer de Chine. Qu'est-ce qu'on va aller chercher en mer de Chine, nous autres ? Ça, voilà, aucun intérêt. Restons ici, chez nous, on va pas aller suivre les Américains, aller faire la guerre ou provoquer les choses en mer de Chine. Non. Comme il y a ces différences, choisissons plutôt l'indépendance, l'autonomie, hein, et le non-alignement pour l'Europe. Mais si aujourd'hui, on suit les États-Unis et on ne fait du commerce qu'avec les pays qui sont soi-disant considérés comme des démocraties, ben on ne va pas faire du commerce avec grand monde. Vous savez que The Economist, hein, la revue porte-voix, porte-parole de l'establishment capitaliste libéral dans le monde, ben considère qu'à peine, je pense, 6%, 6,5% de la population dans le monde vit en pleine démocratie. Ça veut dire que pratiquement, on pourra faire du commerce qu'avec nous et nos voisins, quoi. C'est pas ça l'alternative. Alors, comment arriver à assumer, à développer notre économie pour pouvoir garantir ce non-alignement et cette autonomie ? C'est la question. Aujourd'hui, souvent, dans les relations diplomatiques, l'Union européenne fait encore la leçon, hein, les petits doigts levés comme ça aux autres pays. Hein, vous devriez privatiser vos entreprises publiques. Ah, vous devez faire des coupes, de l'austérité dans vos services publics. C'est de l'ingérence, hein, et on va leur dire comment ils doivent gouverner leur pays. Arrêtons avec cela. Commençons des partenariats d'égal à égal dans lesquels on dit très clairement « Écoutez, nous vous respectons. Et nous allons respecter une série de principes. Tout d'abord, votre souveraineté. Vous êtes des pays souverains, nous respectons cela. Nous respectons l'intégrité territoriale de votre pays. Deuxièmement, la non-intervention, la non-agression. Évidemment, la guerre, nous l'excluons. La question de la guerre en Libye le montre, nous devons nous engager à éviter la guerre. Troisièmement, je pense un principe important, c'est aussi la non-ingérence dans les affaires intérieures. Un pays doit pouvoir organiser ses institutions, son économie, comme son peuple le désire. Il y a la question, après, des avantages mutuels. Nous devons chercher, plutôt que d'essayer de toujours arnaquer l'autre dans des négociations commerciales, essayons de respecter l'autre, de dire, voilà, vous avez des intérêts, nous aussi, on va chercher un partenariat gagnant-gagnant. Et finalement, nous devons prendre l'engagement de la coexistence pacifique. Dire voilà, il y a des grandes différences entre nous, mais nous voulons et nous devons partager ce monde de manière pacifique. Nous voilà déjà à la fin du troisième épisode de l'Instant Piment. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris quelque chose, ou au contraire, entendu quelque chose qui ne vous plaisait pas du tout. Alors, je vous encourage à m'envoyer vos commentaires, vos réactions. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, parce que comme ça, vous ne raterez pas les épisodes qui vont venir. Mais surtout, réagissez, envoyez-moi vos questions, parce que peut-être qu'il y a un thème, un sujet, dont vous pensez que ça serait bien de l'aborder dans un des épisodes à venir. Je vous remercie beaucoup, c'était encore une fois un énorme plaisir de partager ce moment avec vous, et on se voit bientôt.
Ce podcast est une production de The Left Europe.